Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 79, Daf Ayin Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Cette Mishnah dans Masechet Mikvaot Didé, c'est sa propre opinion. Rabbi Yehuda est donc plus indulgent, il pense comme les Chachamim qu'un liquide est annulé dans la majorité si sa couleur est la même que l'eau. Ah, celle-ci, donc, la braïta que nous avons rapportée précédemment, Derabé, suit l'opinion de son maître. C'est donc Rabbi Yehuda qui rapporte l'opinion de son maître. Et comme l'explique le Chazé David, puisque Rabbi Yehuda a rédigé l'enseignement de ses maîtres, qui sont plus stricts concernant les lois de l'annulation, lorsqu'il a voulu dire que l'urine s'annule dans l'eau du bain rituel, il a employé le langage de son maître, et donc il a dit que l'urine est considérée comme étant de l'eau. Détania, car il est enseigné dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabban Gamliel, il dit au nom de Rabban Gamliel, qui est donc son maître, En dam mevatel dam, le sang n'annule pas le sang, c'est ce que nous voyons dans notre Mishnah, que si du sang d'un sacrifice s'est mélangé avec du sang d'un animal profane, ce sang n'est pas annulé, on peut donc l'asperger. En rok mevatel rok, le crachat ne peut pas annuler un crachat, c'est-à-dire s'il y a un crachat provenant d'une personne atteinte de l'impureté du Zav causé par deux écoulements non séminales, ce crachat est donc impur, même si on y mêle d'autres crachats d'autres personnes pures, ce crachat n'est pas annulé et transmet toujours l'impureté. Ve'en meraglaim mevatlin meraglaim, et l'urine n'annule pas l'urine. Il s'agit aussi donc d'une urine provenant d'une personne atteinte de l'impureté du Zav, celle-ci ne s'annule pas avec une majorité d'urine provenant de personnes pures, qui se trouve dans un ustensile, et donc cette urine transmet toujours l'impureté. Nous voyons donc que Rabban Gamliel est strict concernant les lois de l'annulation lorsqu'il s'agit de liquides ou d'aliments identiques. Lorsqu'il s'agit d'aliments ou de liquides non identiques, mais de couleurs identiques, il ne s'annulera pas dans la majorité, mais plutôt, nous le considérons comme s'il s'agissait d'un aliment non identique, et donc il ne sera pas annulé tant qu'on aurait pu reconnaître son goût. Et comme nous l'avons dit précédemment, l'auteur de notre Mishnah suit partiellement cette opinion de Rabban Gamliel, puisque même s'il s'agit de deux liquides ou de deux aliments identiques, ils seront annulés, tout en les considérant comme étant des aliments non identiques, et ils ne seront annulés que si on n'aurait pas pu reconnaître leur goût. Et Resh Lakish suit l'opinion des Chachamim et donc celle de Rabbi Yehuda lui-même aussi. Rava Amar, Rava dit, toujours pourrais-je te dire que Rabbi Yehuda pense comme ses maîtres, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Cependant, dans la Mishnah, dans Masechet Mikvaot, Bedli Shetocho Tahor Vegabot Tamei Askinan, il s'agit d'un seau, donc d'un ustensile dont l'intérieur est pur, mais seulement son extérieur est impur. Il s'agit d'une impureté transmise midrabanan par un liquide. En fait, Minatora, un liquide, ne peut pas transmettre d'impureté à un ustensile. Donc, si un liquide impur touche un ustensile de l'extérieur, seul l'extérieur est impur. De midina sage lehu bechol dehu. Dans ce cas, si on suivait strictement la loi, on aurait pu se contenter de n'importe quoi, c'est-à-dire de le tremper dans un bain rituel, même s'il est rempli d'un liquide ou de n'importe quoi, puisque seul l'extérieur doit être purifié. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est de faire attention que le bord supérieur de l'ustensile soit en contact avec l'eau, mais l'intérieur n'a pas besoin d'être purifié. Verabanan hu de gazru behu, et c'est les Chachamim qui ont décrété d'interdire de purifier un ustensile dont seul l'extérieur est impur s'il contient de l'eau purificatrice, et cela, Dilma Chayis Alayu, de peur que par souci de préserver cette eau purificatrice, qu'elle ne se mélange pas avec de l'eau du bain rituel, nous lisons, selon la note marginale, Velo Matbille, il risque de ne pas plonger cet ustensile correctement dans le bain rituel, de manière à ce que son bord supérieur soit en contact avec l'eau, et finalement, cet ustensile ne sera pas purifié. Et c'est pourquoi, Vekivan de Ika Ribouya, par conséquent, dès qu'il y a une majorité d'eau du bain rituel, donc l'eau purificatrice sera minoritaire par rapport à l'eau du bain rituel qui remplit cet ustensile. L'eau de sarir, il n'y a pas besoin d'avoir plus que cela. Donc en fait, comme nous l'avons expliqué, il s'agit d'un cas où il n'est pas nécessaire d'annuler le liquide contenu dans cet ustensile. Mais en général, lorsqu'il s'agit d'un cas où tout l'ustensile est impur, et donc il faut annuler le liquide qu'il contient, dans ce cas, Rabbi Yehuda pense comme ses maîtres, que lorsqu'il contient un liquide de nature différente, mais de couleur identique, nous le considérons comme s'il s'agissait du vin, et tant qu'on aurait reconnu sa couleur, il n'est pas annulé, et donc la purification n'a pas lieu. Amar Rava. Rava va maintenant résumer les règles générales concernant l'annulation. Amour Rabbanan Betama, les Chachamim ont dit qu'il existait le critère du goût. Donc, lorsqu'on ne reconnaît pas le goût, l'aliment en question est annulé. Amour Rabbanan Beruba, les Chachamim ont dit qu'il existe le critère de la majorité. Donc, lorsqu'un aliment est minoritaire, il est annulé. Amour Rabbanan Bechazuta, et les Chachamim ont dit qu'il existait le critère de la couleur. C'est-à-dire que lorsqu'on ne reconnaît pas la couleur, l'aliment en question est annulé. Or, il précise, min beshe nomino, lorsqu'il s'agit de deux aliments de sorte différente, betama, l'aliment interdit est annulé lorsqu'on ne reconnaît pas son goût. Donc, tant qu'on reconnaît son goût, même s'il est minoritaire, il reste interdit. Min bemino, mais s'il s'agit de deux aliments de la même sorte, beruba, il est annulé dans la majorité. Donc, si l'aliment interdit est minoritaire dans un mélange de deux aliments de sorte identique, l'aliment interdit est annulé. Hechadika chazuta, lorsqu'il est question uniquement de couleur, c'est-à-dire il ne s'agit pas de deux aliments interdits qu'on désire consommer, mais par exemple dans le cas où il est question de purifier un ustensile impur qui contient un liquide. Bemar'e, c'est la couleur qui détermine. C'est-à-dire, si la couleur de ce liquide en question ne se reconnaît pas lorsqu'il se remplit d'eau du bain rituel, soit parce qu'il s'agit d'un liquide de couleur identique, soit même s'il s'agit d'un liquide d'une couleur différente, mais il y en a tellement peu qu'on ne reconnaît plus sa couleur, cet ustensile peut se purifier lorsqu'il contient ce liquide. Alors la Gemara revient en arrière, ou pliga de Rabbi Elazar, cet enseignement de Resh Lakish qui dit que deux aliments interdits qui se mélangent s'annulent mutuellement, comme nous l'avons expliqué, est en désaccord avec l'opinion de Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, Keshem Shein Mitzvot Mevatlot Zu et Zu, de même que deux aliments à propos desquels il y a un commandement positif de les consommer, ces aliments ne s'annulent pas mutuellement, comme nous l'expliquerons, car Enisurin Mevatlin Zu et Zu, ainsi les aliments interdits ne s'annulent pas mutuellement. Donc selon Rabbi Elazar, si deux aliments interdits de la taille d'une olive se sont mélangés et une personne les a consommés, cette personne a transgressé deux interdictions et il est puni en conséquence. Il poursuit, Man shmatle de amar en mitzvot mevatlot zu et zu, qui as-tu entendu dire qu'il pense que deux aliments à propos desquels il y a un commandement positif de les consommer ne s'annulent pas mutuellement? Hilelhi, c'est Hilel de Tania, car il est enseigné dans une braïta. Amru alav al Hilel azaken, les Chachamim ont dit sur Hilel l'ancien, lorsque le Beit HaMikdash existait encore, Shehaya Korchan Bevatachat, il les enveloppait ensemble. Il s'agit du Korban Pessah, des pains azimes et des herbes amères. Il en faisait donc une espèce de sandwich, Veochlan, et il les mangeait ainsi. Mishum Shenemar, car le Pasuk dit dans Bamidbar Tet concernant le Korban Pessah, Al Matzot Umorim Yochlou, ils mangeront le Korban Pessah sur des matzot et des herbes amères, donc avec des matzot et des herbes amères. Selon lui, il fallait les manger ensemble. Il ne craint pas que le goût des herbes amères risque d'annuler le goût de la matzah ou du Korban Pessah. Donc de là, nous apprenons que selon lui, des aliments qu'il y a une mitzvah de consommer ne s'annulent pas. Il est donc permis de les mélanger pour les manger ensemble. Et d'ailleurs, selon Hillel, c'est ainsi qu'il faut agir.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf, à une tête à Moudbet. Tanou Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta, Charsan, Shelzav, Vezava, un pot de chambre brisé qui a été utilisé par une personne atteinte de l'impureté du Zav causée par un écoulement non séminal, ou bien par une femme qui a eu l'impureté de Zava causée par un écoulement de sang hors cycle, les liquides produits par leur corps, comme l'urine, a une impureté grave et se transmet lorsqu'une personne les transporte même sans les toucher. Puisque ce pot de chambre a absorbé de l'urine impure, même lorsqu'il est brisé, il conserve son impureté. À la Breta poursuit, Pa'am Rishon Vesheni, s'il l'a rincé une première fois et une deuxième fois tamé, il reste quand même impur, car l'urine n'est pas encore sortie de ce pot de chambre ou de ses débris. Et puisque par la chaleur, par exemple, si ce pot de chambre tombe dans un four, l'urine peut ressortir, comme c'est expliqué dans Maseret Nida d'Av Samech Bet Amud Bet, nous ne considérons pas donc que l'urine a disparu, et celui qui transporte le pot de chambre, contenant de l'urine impure, est devenu impur. Shlishi, mais si ce pot de chambre a été rincé une troisième fois, Tahor, il est purifié, nous considérons que l'urine est sortie de ce pot de chambre. Bam et Dvarim Amourim, quand ces choses sont dites, Shenatan le Tochomaim, s'il a mis dedans de l'eau, donc il a rincé ce pot de chambre ou ses débris avec de l'eau. Aval l'onatan le Tochomaim, mais s'il n'a pas mis de l'eau dans ce pot de chambre ou dans ses débris, il l'a rincé par exemple avec de l'urine de personne pure, à Philo Assyri, même s'il a été rincé 10 fois, donc 10 personnes pures ont utilisé ce pot de chambre, tamé, il reste toujours impur. Et cela, car le premier auteur de la Braïta pense que deux choses de nature identique ne s'annulent pas. Par conséquent, l'urine pure n'annule pas l'urine impure. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Shlishi, s'il a été rincé une troisième fois, Afalpi shelonatan letochomaim, même s'il n'a pas mis dedans de l'eau. Donc ce pot de chambre n'a pas été rincé avec de l'eau, mais plutôt avec de l'urine. Tahor, il est purifié. Selon lui, l'urine pure a le pouvoir d'annuler l'urine impure. La Gemara constate, Man shematle de'amar min bemino lo batil. Qui as-tu entendu dire que deux choses de nature identique ne s'annulent pas? Rabbi Houda, c'est Rabbi Houda comme nous l'avons vu précédemment. Donc forcément, le premier auteur de la Braïta, c'est Rabbi Houda. Quand même, il pense que si le pot de chambre a été rincé 3 fois, nous considérons que l'urine a disparu. Veraminhu, on a opposé à cela une autre Braïta. La Braïta dit, Pishtan shetavato nida, du lin qui a été filé par une femme en période de menstruation, donc impur, mais sitôt celui qui le bouge ou qui le transporte, tahor, il reste pur. Et cela, bien qu'à l'époque, il cédait de la salive pour filer le lin, donc finalement, ce lin contient de la salive impure, mais puisque cette salive a séché, le lin ne transmet plus l'impureté. Mais si ce lin était humide, donc la salive n'avait pas encore séché, mais sitôt tamé, celui qui le bouge, donc qui le transporte, est devenu impur. Mishum mashke piha, à cause du liquide provenant de sa bouche, donc de cette femme impure, et qui transmet aussi l'impureté à celui qui transporte donc cette salive. Rabbi Houda Omer, af harotvo bemaim, même celui qui mouille ce lin avec de l'eau, tamé, est devenu impur. Mishum mashke piha, à cause du liquide provenant de sa bouche, donc de la bouche de cette femme impure. Et la Gemara constate, va filutuva, même s'il a été mouillé plusieurs fois, nous ne considérons pas que la salive a disparu après avoir été rincée 3 fois, contrairement à ce que nous avons vu dans la braïta précédente. La Gemara répond, Amar Rav Papa, Shani Rok, la salive c'est différent des karir, car elle s'accroche au tissu, donc au lin. Donc même si le lin a été rincé plus de 3 fois, la salive y est restée. Par conséquent, celui qui le transporte est impur. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Nitarev bedam hapsulim yishafech le'ama ». Si du sang de sacrifice valable s'est mélangé avec du sang provenant de sacrifices invalidés, même si le sang des sacrifices invalidés est minoritaire dans ce mélange, yishafech le'ama, il devra être versé dans la source qui coule sous la cour du sanctuaire. Autrement dit, ce sang est invalidé, ne peut pas être aspergé. La Mishnah poursuit, si du sang du sacrifice s'est mélangé avec du sang qui s'écoule de cet animal après sa mort, alors que seul le sang dont dépend la vie de l'animal, et qui est celui qui gicle lorsque l'animal est égorgé, est valable pour l'aspersion, mais celui qui coule après cela n'est plus valable. Même si ce sang qui coule après la mort de l'animal est minoritaire dans le mélange, il faudra verser ce sang dans la source qui coule sous la cour du sanctuaire. Tandis que Rabbi Eliezer déclare ce mélange valable, il est possible d'asperger ce sang. La Gemara demande, mais Maïka Miflegé, en quoi discute Rabbi Eliezer et le premier auteur de la Mishnah? La Gemara répond, Amar Rav Zavid, Begozrin, Gzera, Bamigdash, Kamiflegé. La discussion entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Eliezer est à savoir si les Chachamim ont décrété des décrets dans le sanctuaire ou non. C'est-à-dire, dans les cas où le sang invalidé est minoritaire dans le mélange, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas asperger ce sang. Cependant, il y a lieu de décréter d'interdire de le faire, de peur qu'on asperge un mélange de sang, même lorsque le sang invalidé est majoritaire, ou même s'il est tout seul. Donc demain, à savoir, un des deux pense, le premier auteur de la Mishnah pense, Gozrin, les Chachamim ont décrété d'interdire d'asperger du sang mélangé. C'est pourquoi, dans les deux cas présentés par la Mishnah, le sang est invalidé. Omar Savar, tandis que Rabbi Eliezer pense, Logozrin, les Chachamim n'ont pas décrété d'interdire d'asperger du sang mélangé. Donc dans les deux cas, il déclare ce sang valable pour l'aspersion. Rav Papa Amar, de Kula Alma Gozrin, toujours pourrais-je te dire que tout le monde est d'accord, soit Rabbi Eliezer, soit le premier auteur de la Mishnah, sont d'accord que les Chachamim ont décrété d'interdire d'asperger du sang mélangé. C'est pourquoi dans le cas où du sang provenant de sacrifices invalidés s'est mélangé avec du sang de sacrifice valable, même Rabbi Eliezer sera d'accord qu'on ne peut pas asperger ce sang. Il faudra donc le vider dans la source qui coule sous la cour du sanctuaire. Vehacha, mais ici, bedam hatamtzit matsui lerabot al dam hanefesh kamiflegé. La discussion entre Rabbi Eliezer et le premier auteur de la Mishnah est à savoir s'il est courant que le sang qui coule de l'animal après sa mort, et donc qui ne peut pas être utilisé pour l'aspersion, soit plus important, donc majoritaire, par rapport au sang dont dépend la vie de l'animal qui gicle lorsqu'il a été égorgé. Mar Savar, un des deux pense, le premier auteur de la Mishnah pense, Shachiar, il est courant que ce sang qui coule après la mort de l'animal soit plus important, donc majoritaire par rapport au reste du sang de l'animal. Il y a donc lieu de décréter d'interdire d'asperger ce sang dans lequel s'est mélangé du sang qui a coulé après la mort de l'animal, bien qu'il soit minoritaire. Omar Savar, tandis que l'autre pense, Rabbi Eliezer pense, Lo Shachiar, il n'est pas courant que le sang qui coule après la mort de l'animal soit plus important, donc majoritaire, par rapport au reste du sang de l'animal. Il n'y a donc pas lieu de décréter d'interdire d'asperger du sang dans lequel s'est mélangé du sang qui coule après la mort de l'animal. Donc, selon Rav Papa, la discussion entre Rabbi Eliezer et le premier auteur de la Mishnah est uniquement dans le dernier cas, mais non pas dans le cas où, dans du sang valable, s'est mélangé du sang provenant d'un sacrifice invalidé. Bishlama et Rav Papa, on comprend bien la Mishnah selon Rav Papa, Hainu de Katane, on comprend bien donc que la Mishnah a séparé les deux cas en disant Nitarev bedam absulim yishafer lama, si du sang provenant d'un sacrifice valable s'est mélangé avec du sang d'un sacrifice invalidé, il faudra le verser dans la source qui coule sous la cour du sanctuaire. Puis la Mishnah poursuit en disant bedam atamtzit, si du sang d'un sacrifice valable s'est mélangé avec du sang qui a coulé après la mort de l'animal, Ishafer Lehama, il faudra le verser dans la source qui coule sous la cour du sanctuaire. Et c'est là-dessus que Rabbi Eliezer discute et dit que ce sang est valable. Et là, les Rav Zavid, mais selon Rav Zavid, qui dit que cette discussion est dans les deux cas, Liarvinu Velitninu, la Mishnah aurait dû mélanger les deux cas en disant que si du sang d'un sacrifice est mélangé avec du sang d'un sacrifice invalidé ou avec du sang qui a coulé après la mort de l'animal, il faudra le verser, et selon Rabbi Eliezer, ce sang est valable. La Gemara conclut, Kachéa, c'est une bonne question. La Gemara n'a pas trouvé de réponse sur le moment. Nouvelle Mishnah, Dam Tmimim Bedam Balemumin, si du sang d'un sacrifice parfait s'est mélangé avec du sang provenant d'un sacrifice infirme, Yishafer Lehama, il faudra le verser dans la source qui coule sous la cour du sanctuaire. Nous noterons que là-dessus, il n'y a pas de discussion. Donc même Rabbi Eliezer est d'accord, et ce même selon l'opinion de Rav Zavid que nous avons vu précédemment. Et cela, comme l'explique le Chok Natan, car le sang provenant d'un sacrifice infirme est plus grave, car l'interdiction d'asperger du sang provenant d'un sacrifice infirme est sanctionnée par une peine de flagellation. Tandis que l'interdiction d'asperger du sang provenant d'un sacrifice ayant une autre invalidité n'est pas sanctionnée par une peine de flagellation. C'est pour cela que, selon Rav Zavid, Rabbi Eliezer serait plus indulgent lorsqu'il y a un mélange. Kos bekosot, si un verre contenant du sang d'un sacrifice infirme s'est mélangé avec un ou plusieurs verres contenant du sang d'un sacrifice parfait, Rabbi Eliezer Omer, im karev kos echad, si le sang d'un des récipients a été offert, donc aspergé sur l'autel, yikarvu kolakosot, tous les autres verres, donc le sang contenu dans tous les autres récipients, pourront être offerts, donc aspergés sur l'autel. Et ce, car premièrement, le sang du sacrifice infirme est minoritaire, et de plus, puisque le sang d'un des récipients a été aspergé, nous pouvons estimer que c'est celui provenant du sacrifice infirme qui a été aspergé, il a donc disparu, et le sang contenu dans les autres récipients sont valables, ils peuvent être aspergés. Vachachamim omrim, afilo karvo kulan chutz me'echad mehen, même si le sang contenu dans tous les récipients ont été offerts, donc aspergés, à part le sang contenu dans un des récipients, yishafer le'ama, le sang contenu dans ce dernier devra être versé dans la source qui coule sous la cour du sanctuaire. Hanitanin lemata shenitarvu benitanin lemala, si du sang destiné à être aspergé dans la moitié inférieure de l'autel s'est mélangé avec du sang destiné à être aspergé dans la moitié supérieure de l'autel, comme le korban chatat, Rabbi Eliezer Omer yiten lemala, il donnera, donc il aspergera le sang de ce mélange en haut dans la moitié supérieure de l'autel, veroe aniet atartonin milemalan keilu hem maim, et nous considérons le sang destiné à être aspergé dans la moitié inférieure de l'autel contenu dans ce mélange et qui a été aspergé dans la moitié supérieure comme s'il s'agissait de l'eau, ve'arzor ve'iten lemata, et il aspergera à nouveau en bas dans la moitié inférieure de l'autel pour que le sang destiné à être aspergé dans la moitié inférieure y soit aussi aspergé. Vachachamim omrim yishafer lama, il faudra verser ce mélange dans la source qui coule sous la cour du sanctuaire. Ve'imlo nimlach, mais si le Kohen n'a pas pris conseil, Venatan, et il a appliqué, donc il a aspergé le sang à la fois dans la moitié supérieure, dans la moitié inférieure de l'autel, comme nous l'avons vu précédemment, Kacher, le sacrifice est valable.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.